7-9 du week-end.
Stéphane Paoli.
Sandra Freeman.
Sandra Freeman.
Stéphane Paoli.
Sur France Inter.
Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Sandra.
Bonjour Stéphane. Bonjour à tous.
L'universalité des mathématiques. Jean-Pierre Bourguignon, le directeur de l'Institut des hautes études scientifiques, premier invité hier du 7-9 du week-end, nous disait que les mathématiques dépassent les différences culturelles et qu'il est possible de réinterpréter le savoir mathématique d'une civilisation dans une autre. Nous en revenons alors à la question que nous posons depuis hier. Les mathématiques, avec le concours de la physique et aussi de la biologie, sont-elles mieux que la philosophie ? La clé pour comprendre le monde où nous vivons. Les mathématiciens français sont parmi les meilleurs du monde, à la deuxième place en termes de médaille Fields, le Nobel mathématique, derrière les États-Unis. Leur donne-t-on aujourd'hui les moyens de placer notre pays au meilleur rang possible dans cette économie de la connaissance dont on nous dit qu'elle sera celle du XXIe siècle ? Mathématiques en réseau, mathématiques des réseaux, l'accélération de la recherche est fulgurante, portée par la puissance de calcul des ordinateurs. Les mathématiciens sont précieux parce qu'aujourd'hui, Sandra, tout les concerne.
Oui, d'ailleurs, on va continuer de parler de l'interaction entre les mathématiques et différents champs de recherche ce matin. Et pour commencer, quid des mathématiques et de la physique ? Nous allons l'aborder dans quelques minutes avec Cédric Villani, qui est professeur de mathématiques de l'École normale supérieure de Lyon et directeur de l'Institut Henri Poincaré à Paris. Quid des mathématiques et de l'industrie ? Ce sera à 8h20 avec Stéphane Mala, qui est professeur de mathématiques appliquées à l'École Polytechnique. Enfin, quid du lien entre mathématiques et biologie ? Eh bien là, ce sera à 8h40 avec François Taddeï, qui est un polytechnicien devenu généticien et qui est le directeur de recherche en biologie des systèmes à l'INSERM.
Nous évoquions hier matin le lieu extraordinaire qu'est l'IHES, l'Institut des hautes études scientifiques, petite maison, sinon dans la prairie, au moins dans un beau jardin, où des mathématiciens, mais aussi des physiciens et désormais des biologistes, cherchent en liberté. C'est la règle du lieu, pas d'obligation de publication, mais celle d'échanger, de confronter, d'enrichir la recherche. Le thé est servi tous les jours à 16h, et cette cérémonie du thé devient alors un incubateur de la connaissance dans la transdisciplinarité. Bonjour Cédric Villani.
Bonjour.
Merci.
Bonjour.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes professeur de mathématiques à l'École normale supérieure de Lyon. Vous êtes aussi le directeur de l'Institut Henri Poincaré à Paris. Et j'ai envie de dire, c'est dommage qu'on ne vous voit pas, le jeune, apparemment le très jeune directeur de l'Institut Henri Poincaré. Je voulais juste, avant qu'on parle de physique, parler tout de même de cet aspect générationnel. Est-il vrai, confirmez-vous, qu'il y a aujourd'hui un souci et qu'il y a moins de jeunes, semble-t-il, attirés par les mathématiques ou la physique ? Est-ce que c'est vrai ?
Est-ce qu'il y a moins de jeunes attirés par les mathématiques ou la physique ? C'est possible, mais on va faire ce qu'il faut pour s'attaquer à résoudre le problème. Alors, c'est possible que dans le monde actuel, ça fasse pas rêver naturellement les jeunes faire des mathématiques ou de la physique. Hein. On a peut-être des expériences rébarbatives en lycée. Mathématiques très abstraites, le professeur de mathématiques, on ne comprend pas ce qu'il dit. Bon, une fois qu'on arrive à dépasser ça, on découvre facilement que les mathématiques, c'est passionnant, la physique théorique, c'est passionnant, et c'est très beau. Ce sont des clés pour comprendre le monde, ce sont des représentations du monde. Faire des mathématiques, c'est une grande aventure. C'est de ça qu'il faut convaincre les jeunes, et je suis sûr qu'avec la conviction, on arrivera à éviter le vide générationnel.
De la conviction, pardon, mais aussi, ça vient sans doute avec de la maturité. Non, j'ai l'impression qu'il faut avoir gagné une forme de maturité pour arriver à comprendre les enjeux.
Est-ce qu'il faut avoir gagné de la maturité pour comprendre les enjeux ? Peut-être. Pour faire des mathématiques, pas forcément. Je dirais qu'au contraire, les mathématiciens souvent ont gardé un côté enfant, un côté joueur. Les mathématiciens, souvent on trouve d'excellents mathématiciens très jeunes. La question de l'âge est au cœur des mathématiciens. On sent que il faut être inventif pour faire de bonnes mathématiques. Il faut être jeune. Chaque mathématicien est en lutte contre l'horloge biologique.
C'est drôle parce qu'on dit la même chose des musiciens, quelquefois même aussi des peintres. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Bourguignon nous a évoqué hier la dimension, il a finalement dit la dimension presque artistique des mathématiques.
Je suis tout à fait d'avis de le même avis que Jean-Pierre. La dimension artistique est extrêmement importante.
La dimension esthétique aussi.
La dimension esthétique est très importante. Quand un mathématicien, quand il apprécie une démonstration mathématique, un énoncé mathématique, je dirais qu'à 80%, ce qu'il convainc, ce à quoi il est sensible, c'est l'esthétique de la démonstration.
Mais qu'est-ce que ça veut dire l'esthétique en mathématiques ?
Esthétique en mathématiques, c'est dur à représenter. Il faudrait donner quelques exemples, mais peut-être je vais utiliser une métaphore, une citation de Henri Poincaré, mon maître en quelque sorte, puisque je suis le directeur de l'Institut Henri Poincaré. Henri Poincaré disait les faits construisent les théories de la même façon que les pierres construisent les maisons. Mais un amas de faits ne fait pas plus une théorie qu'un amas de pierres ne fait une maison.
Hein, c'est une belle image. C'est une très belle image, en effet.
Et est-ce que cette culture de l'esthétique dont on parle pour les mathématiques est une même forme de culture de l'esthétique dans le domaine de la physique ?
Il y a une esthétique aussi dans le domaine de la physique, bien sûr. Les mathématiciens, ils sont sans doute encore plus sensibles. Mais mathématiques et physique vont de pair depuis des centaines d'années.
Qu'est-ce qui les différencie ? Y a-t-il une différence, d'ailleurs, entre les mathématiques et la physique ? Au fond, si on... Pardon de tomber un peu dans la réduction, mais existe-t-il une différence ?
Différence entre mathématiques et physique, ça serait dur à définir, mais on le sent. Il y a certains côtés plus physiciens, certains côtés plus mathématiciens. En très gros, le mathématicien est très attaché à l'universalité, c'est un mot qui a déjà été employé ici, encore plus à la beauté que les physiciens peut-être, à l'abstraction, mais ce sont des qualités qui sont aussi très importantes pour les physiciens. Ce sont des questions de degré, des questions de sensibilité. C'est très dur de différencier les mathématiques et la physique dans beaucoup de cas. Regardez qui est la figure emblématique des sciences. On pense souvent à Isaac Newton. Est-ce que c'est un mathématicien ? Est-ce que c'est un physicien ? C'est les deux à la fois. Et son œuvre mathématique est indissociable de son œuvre physique. Les problèmes auxquels il s'est intéressé sont aussi bien des problèmes mathématiques que des problèmes physiques. Prenez par exemple, après avoir énoncé la loi de la gravitation universelle, il s'intéresse à la stabilité du système solaire. Hein. Une fois qu'on a compris que non seulement la Terre tourne autour du Soleil et Jupiter aussi, mais la Terre est attirée par Jupiter et vice-versa. Comment, dans un système aussi compliqué où tout le monde interagit, comment peut-on être sûr que le monde va continuer tel qu'il est, le système solaire va continuer, on verra le jour se lever pendant encore des millions d'années.
On a l'impression quand même quelquefois, et d'ailleurs le discours des physiciens est assez souvent un discours poétique, l'œil qui regarde l'univers a la même structure que l'univers, c'est une merveille de dire une chose pareille. Mais on a aussi le sentiment quelquefois que l'approche, la recherche est plus conceptuelle. Alors que les mathématiciens aujourd'hui, on en parlera s'agissant de l'industrie et aussi de la biologie, sont peut-être dans une réalité plus tangible. Est-ce que cette différence est...
Cette différence n'est pas très claire. Et à dire la vérité, j'aurais dit exactement le contraire si on m'avait posé la question.
Les mathématiciens... Nous voilà rassurés.
Ouais. Et les physiciens plus tangibles. Donc on voit que les frontières sont très floues. Et puis la vérité, c'est qu'il y a des physiciens conceptuels et physiciens tangibles, des mathématiciens conceptuels et mathématiciens tangibles. De la même façon qu'en art, chacun a sa sensibilité, sa façon d'aborder les problèmes et de représenter le monde. Les mathématiciens ou les physiciens ont chacun leur sensibilité. Et on parle de physique mathématique, de physique théorique, de physique expérimentale, toutes sortes de physique, toutes sortes de mathématiques. C'est une grande palette.
Et est-ce qu'on pourrait parler de façon peut-être un peu caricaturale de différence de posture d'une certaine façon entre celui qui serait plus mathématicien et celui qui serait plus physicien, l'un plus inventeur, l'autre plus dans le cadre de la découverte ? Est-ce qu'il y a un rapport au monde qui est différent ?
Le rapport au monde peut-être a quelques nuances. En particulier, vous parlez d'inventeur. Beaucoup de physiciens sont très imaginatifs pour concevoir des expériences, par exemple. De la bidouille, si vous me permettez le mot.
Ah, moi, j'adore.
Et puis, ils font preuve de beaucoup de talent pour construire des expériences qui peuvent être aussi être considérées comme des œuvres d'art. Là où le mathématicien sera inventif, c'est dans un raisonnement abstrait. Comment faire intervenir un raisonnement ? Et en particulier, comment, dans un problème, faire intervenir quelque chose qu'on n'attendait pas. Je vais sortir encore une citation de Poincaré, si vous me le permettez. Faire des mathématiques, c'est donner le même nom à deux choses différentes. Ça, c'est une citation de Poincaré. On reconnaît que derrière deux problèmes qui ont l'air d'avoir rien à voir, il y a une réalité mathématique identique. Un exemple, si vous aimez faire du tennis, par exemple, vous aimez bien, peut-être pas vous, bon, si on parlait de Federer tout à l'heure.
Oui. Alors, Roger.
Pendant le journal, on parlait de Federer.
Pendant le journal, on parlait de Roger Federer. Donc, Roger, ou vous, ou n'importe qui, vous aimez bien surprendre votre adversaire en envoyant un effet démoniaque, une balle hyper liftée ou quelque chose comme ça. C'est un problème de mécanique des fluides, ça. Comment l'air va agir sur la balle. Et puis maintenant, ça, c'est une expérience agréable, peut-être. Vous observez le match de tennis sur votre petit écran, ça, c'est agréable. Et maintenant, une expérience désagréable. vous êtes sur le chemin de votre travail et il y a un embouteillage, rien n'avance. Et puis, petit à petit, ça arrive, vous arrivez à la fin de l'embouteillage, vous vous demandez, c'est quoi ? Quel était le bouchon ? Quel était l'accident ? Et il n'y a rien. Il ne s'est rien passé, il n'y avait rien eu, et pourtant il y avait cet embouteillage. Ben, ça aussi, c'est un problème de mécanique des fluides. Les particules fluides, ça serait les voitures. Derrière ces deux problèmes, il y a une réalité mathématique similaire, les équations de la mécanique des fluides. Et il y a des chercheurs en mathématiques qui étudient ces équations, sachant bien qu'elles vont s'appliquer aussi bien à la balle de tennis qu'à vous qui attendez en pestant dans votre voiture.
Comme quoi, vous voyez, Sandra, la communication. On m'aurait dit ça quand j'étais petit à l'école, peut-être je serais devenu mathématicien. Alors, vous arrivez.
Ou tennisman.
Jamais trop tard. Non, tennisman, ça jamais. Ça. Non, mais vous savez, il y a une chose que je trouve extraordinaire. Quand vous disiez, il y a toujours quelque chose qui résiste. Vous arrive-t-il, je vais citer une phrase que je trouve absolument magnifique, d'être surpris par ce que vous trouvez. Regardez cette phrase. Je la cite telle qu'elle est écrite. Je parlais de tableau noir. Vous savez, il y en a partout à l'IHES où on peut prendre une craie à n'importe quel endroit puis commencer à faire.
C'est l'outil universel des mathématiciens.
Bien entendu.
Communication par tableau noir, on n'a jamais fait mieux.
Bien sûr, bien sûr. Alors la phrase est la suivante. Ce que j'écris m'oblige à penser ce que j'étais à 100 lieues de penser. Ce que j'écris m'oblige à penser ce que j'étais à 100 lieues de penser. L'objectivation sur le tableau est-elle quelquefois pour vous une extraordinaire découverte ?
Extraordinaire est le mot. Et les exemples sont fréquents de mathématiciens qui en arrivent à démontrer le contraire de ce dont ils étaient convaincus. Ça m'est arrivé, ça arrive à beaucoup de gens. On travaille sur un problème, on veut démontrer quelque chose. On s'acharne, on trouve un obstacle, on ne comprend pas, on hésite, on tourne et puis on finit par comprendre que ce n'était pas ce qu'on croyait. C'est complètement différent. Ça m'est arrivé, ça m'arrivera encore. Ce n'est pas le quotidien des mathématiciens, mais ça arrive très souvent.
Cédric Villani, faut-il rappeler que vous êtes mathématicien, que vous dirigez l'Institut Henri Poincaré à Paris, que vous enseignez les mathématiques à Normale Sup à Lyon. Ce que vient de décrire Alain Baraton, c'est un laboratoire.
C'est un laboratoire. Je dirais, d'abord, c'est extraordinaire. C'est une construction merveilleuse. On n'imaginerait pas au départ, quand on voit tout bêtement l'arbre qui croît, la montée de la sève, on peut prendre ça pour acquis. Mais comme il vient brillamment de nous le décrire, ça met en jeu des phénomènes physiques. Phénomènes mathématiques, phénomènes physiques, phénomènes biologiques, tout est intégré ici. On a parlé d'osmose, on a parlé de transpiration, enfin de pression osmotique, de transpiration, on a parlé de capillarité. Tout ça derrière, il y a des phénomènes universels qui seront exploités par l'art de manière magistrale.
Mais cette intégration, telle que vous la décrivez à l'instant, implique-t-elle qu'il faut maintenant, pour comprendre les phénomènes, toujours de la transdisciplinarité ?
Est-ce qu'il faut toujours de la transdisciplinarité ? C'est s'avancer beaucoup, dire toujours, mais en tout cas, souvent, ça aide, souvent, c'est capital. Et transdisciplinarité, ça peut être dans le cerveau d'un même individu qui serait éclairé dans plusieurs directions à la fois, mais ça peut aussi être par collaboration entre plusieurs individus. Les rencontres, Jean-Pierre Bourguignon en parlait hier dans le cadre de l'Institut des hautes études scientifiques. Pour l'Institut Henri Poincaré, c'est aussi le terreau de la création. Ça a été, depuis le départ, l'Institut Henri Poincaré a été conçu comme un lieu de rencontre entre mathématiques et physique théorique. Il s'ouvre aussi un petit peu à d'autres sciences, même si mathématiques et physique théorique restent la base. L'interdisciplinarité permet de progresser dans la compréhension des phénomènes, mais permet aussi de progresser dans chaque science. Un mathématicien qui fait de la physique, ce n'est pas simplement le mathématicien qui aide le physicien. C'est aussi le mathématicien qui récupère de nouvelles idées, qui développe de nouvelles théories mathématiques à partir de ce qu'il
observe. Mais donc, c'est aussi l'ouverture à l'autre. C'est ça qui nous frappe avec Sandra depuis hier, c'est cette capacité que vous avez, dans ce domaine de recherche en tout cas, à accepter l'échange et la confrontation des idées, quoi qu'il en coûte, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, quitte à découvrir qu'on s'est trompé, quoi.
Quitte à découvrir qu'on s'est trompé, quitte à passer des nuits blanches en vain. Il y a une citation, quelque chose qui se murmure. Le meilleur ami du mathématicien, c'est la corbeille papier. Parce que quand on fait quelque chose, c'est presque toujours faux. Hein. On essaye, on s'évertue, comme un peintre qui jetterait 95% de ses toiles parce qu'elles sont inachevées. Et on travaille, et après, c'est la communication, c'est l'ouverture à l'autre, oui.
Alors, les mathématiques, la physique, la biologie, sont-elles la clé pour comprendre ce monde précisément où nous vivons aujourd'hui ? C'est la question posée depuis plaisir par le 7-9 du week-end. Jean-Pierre Bourguignon, le directeur du prestigieux IHES, l'Institut des hautes études scientifiques de Bures-sur-Yvette en région parisienne, nous disait hier que les mathématiques, dans leur très grande variété de formes d'expression, ont l'ambition de traiter de structures universelles, Sandra.
Et oui, nous allons désormais parler de la passerelle, justement, entre les mathématiques et l'industrie, avec Stéphane Malat. Bonjour et bienvenue, monsieur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de mathématiques appliquées à l'École Polytechnique. Et votre parcours, Stéphane Malat, est plutôt atypique, puisque vous êtes enseignant-chercheur, mais vous avez une autre casquette. Vous avez tenté l'expérience de l'entreprise et vous avez cofondé en 2001 une start-up, Let It Wave, pour valoriser les résultats de la recherche en mathématiques pour le traitement d'images. Alors vous dites que cette expérience vous a aidé à mieux comprendre certains blocages de la valorisation de la recherche telle qu'elle se pratique en France. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ces univers et quels sont ces blocages ?
Déjà, il y a une chose que les mathématiques partagent avec l'industrie avant peut-être de parler des blocages. C'est l'importance de la simplicité. Cédric Villani parlait de l'esthétisme et une des sources de la beauté en mathématiques, c'est la recherche de la simplicité. Alors, la simplicité pour l'industrie, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui permet d'améliorer les processus, c'est ce qui permet potentiellement de mieux comprendre comment construire des produits qui sont robustes à bas coût. Mais il y a un très gros problème et des grosses difficultés pour ramener autour de la même table des mathématiciens et des industriels. C'est la relation au temps, c'est la relation aux contraintes. Un mathématicien, vous pouvez le voir en quelque sorte comme un coureur de fond, pour qui ce qui est important, c'est pas d'aller vite, mais c'est d'aller loin, et c'est de trouver des nouveaux chemins. Alors qu'un industriel va vivre sous une pression considérable du temps, les processus industriels s'accélèrent, et puis il y a tout simplement la contrainte des processus industriels, la contrainte des clients, qui fait que les problèmes doivent être résolus rapidement et dans un certain cadre. Et donc cette collaboration, eh bien, pour qu'elle se fasse, il faut que les deux soient capables de s'adapter, que d'un côté les mathématiciens arrivent à rentrer dans un temps un peu plus rapide, et de l'autre côté que les industriels acceptent de former ces mathématiciens et aussi de s'ouvrir à d'autres chemins potentiels un peu plus originaux.
Alors là, on est dans des questions qui sont en réalité, vous dites simplicité, mais d'une grande complexité, parce que ce qui fait le charme extraordinaire de l'IHES, c'est précisément qu'on y prend le temps, que la recherche, c'est du temps, que même on ne leur demande même pas des résultats. On leur demande simplement de chercher. Alors, d'un côté, il y a cet enjeu de la recherche fondamentale magnifique. Et de l'autre, il y a aussi, en effet, la nécessité économique et industrielle. Ces temps, finalement, sont-ils aujourd'hui compatibles ?
Je pense qu'il y a différents moments dans la vie. Il y a des moments où il faut aller vite, où on est sous contrainte, par exemple, de sortir un produit. Et à ce moment-là, on découvre des nouvelles choses. On découvre la réalité d'un certain nombre de contraintes. Et puis, il y a d'autres temps où on peut à nouveau réfléchir sur ces contraintes, et ces contraintes génèrent des nouvelles idées, génèrent des nouvelles mathématiques. Mon expérience, et l'expérience de très nombreux collègues, c'est que ce passage dans l'industrie, ça révèle des problèmes très profonds qui ensuite, lorsqu'ils sont repensés avec le temps, permettent de faire des découvertes fondamentales qui n'ont pas simplement des impacts industriels, mais aussi des impacts en mécanique quantique, en chimie, en biologie, dans des domaines qui sont complètement autres. Et ça, je pense que c'est le rôle absolument superbe des mathématiques, ce rôle de passerelle, de faire passer des idées d'un contexte, de l'extraire de ce contexte et tout d'un coup de se rendre compte que ces idées qui étaient apparues, par exemple, je connais l'exemple dans un cadre industriel pétrolier d'un ingénieur d'Alphaquitaine qui avait développé une nouvelle technique pour explorer le sous-sol avec ce qu'on appelle des ondelettes. Eh bien, ce concept d'ondelette, une fois passé dans la moulinette mathématique, s'est révélé extrêmement important en mécanique quantique, en chimie, par exemple pour coder des sons, pour des images, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas voir ça avec un angle unique. Un institut comme l'IHES est fondamental parce qu'il permet cette réflexion, mais en même temps, la collaboration avec l'industrie peut être extrêmement riche. Et puis je pense aussi que c'est très important pour l'industrie. C'est très important parce que les mathématiques peuvent être une source d'idées nouvelles qui peuvent rendre extrêmement compétitives des industries pour qui c'est très important.
Et à l'inverse, en quoi les mathématiques ont changé sous la pression, entre guillemets, du monde industriel tel qu'il est aujourd'hui, de l'accélération du temps, de cette nouvelle valeur qui est celle de l'efficacité ?
Je ne pense pas que les mathématiques aient changé. Les mathématiques restent telles quelles, mais il y a des nouvelles idées qui ont émergé du monde de l'industrie, qui ont été repensées par les mathématiciens et qui ont donné lieu à des nouvelles découvertes, comme je disais, qui ont irradié d'autres sciences. Je pense aussi, comme je disais, que c'est très important aussi pour l'industrie. On pense souvent aux grandes industries pour lesquelles les mathématiques ont un impact très important. Si vous pensez par exemple à un avion comme l'Airbus A380, c'est un avion qui a volé d'abord sur un ordinateur, c'est-à-dire entièrement simulé, parce que des mathématiciens ont travaillé sur les équations de la physique, et c'est ça qui permet de traiter des systèmes aussi complexes avec des coûts qui sont plus réduits. Et
juste une question, Stéphane Malin, à vous écouter. On nous dit, on ne cesse de répéter d'ailleurs, que nous sommes entrés dans l'économie de la connaissance, qui est une économie de la valeur ajoutée. Les mathématiciens français sont réputés être aujourd'hui parmi les meilleurs du monde, et peut-être même les meilleurs du monde relativement au nombre d'habitants français, les deuxièmes derrière les Américains, mais on est moins nombreux qu'eux. Vous donne-t-on les moyens de faire avancer la recherche française et donc l'innovation industrielle au moment précisément où tout va se jouer dans ce segment-là?
Les moyens, il y en a pas forcément toujours assez, mais il y en a. Mais je pense que les blocages, bien souvent, viennent du fait que la communication ne se fait pas suffisamment bien. Et puisqu'on parlait du monde industriel, notamment avec le monde industriel, c'est pas toujours facile de mettre aux gens autour d'une même table des gens qui ont des cultures et des contraintes qui sont fondamentalement différentes. Je pense que les pouvoirs publics ont un rôle de médiateur, mais je pense aussi qu'on a nous-mêmes une responsabilité, et probablement aussi dans la formation des étudiants. Je pense qu'on a des étudiants qui sont absolument extraordinaires en sciences, et leur montrer qu'il y a des passerelles qui sont extrêmement bénéfiques à la fois pour l'industrie et pour la science, et que ces passerelles ont une valeur aussi intellectuelle, eh bien, je pense que c'est aussi notre rôle de le faire.
Et pour bien comprendre, Stéphane Malin, on parle de cela en France, hein, de ce fossé culturel entre le monde de la recherche et celui de le monde industriel. Aux États-Unis, par exemple, en Chine, par exemple, est-ce que ce fossé culturel est aussi grand? Est-ce que c'est une spécialité française?
Il faut dire d'un mot qu'il a eu la chance, Stéphane Malin, d'enseigner aussi au MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Et c'est vrai que le climat et l'ambiance qui règne là-bas, c'est absolument incroyable, quoi. C'est l'interdisciplinarité, le mélange et l'échange est d'une richesse extraordinaire.
Je pense effectivement que cet échange est beaucoup plus fluide là-bas, et c'est le fait d'avoir passé 10 ans aux États-Unis, sans doute, qui faisait que pour moi, ce passage semblait assez naturel.
Comment s'en inspirer, du coup?
Je pense qu'on peut s'en inspirer à la fois, comme je disais, dans la formation des étudiants, parce qu'il faut être bien conscient que ce sont les prochaines générations qui vont créer la science qui est à venir, et puis aussi tout simplement en créant des réseaux de rencontres. C'est une adaptation culturelle qui est assez profonde. Aux États-Unis, il y a une mobilité qui est plus grande, sociale, de groupe. Et cette mobilité, on l'a moins en France, et donc on l'a moins entre milieu académique, milieu industriel. Il y a plus de préjugés.
Mais pourtant, en France, tenez, on s'est inspiré, l'IHES s'est inspiré d'un formidable institut de recherche qui existait aux États-Unis. Et on a vu à quel point ça a magnifiquement fonctionné en France, l'IHES, et continue de magnifiquement fonctionner.
Absolument, mais je pense que ce passage, il se fait de plus en plus. Le milieu académique est non seulement conscient, mais finalement motivé maintenant pour tendre la main. C'est le cas aussi des industriels. Maintenant, quand il y a un fossé culturel, il faut du temps et il faut du travail avant de réussir à se rapprocher. Je pense que c'est très important, mais moi, je suis très optimiste là-dessus.
Et si on regarde de l'autre côté, on regarde les Chinois, vous dites qu'il faut du temps. En même temps, il y a une sorte d'accélération du temps aussi avec les pays qui sont émergents aujourd'hui. Et les Chinois sont en train aussi d'avancer, même en termes d'avancées scientifiques.
Et de faire revenir leurs chercheurs qui travaillent, par exemple, aux États-Unis.
Exactement. Donc, comment s'adapter aussi par rapport à la révolution?
Effectivement, vous avez raison. Moi, j'étais récemment en Chine. J'étais très impressionné par un institut de recherche où vous aviez à la fois tout en haut des chercheurs, des enseignants et des start-up qui sont en bas. Il y a une accélération qui est extrêmement rapide en Chine. Je pense qu'en étant dans le monde industriel, j'ai été confronté à cette compétition extraordinaire de l'Asie. J'étais dans le monde du semi-conducteur où l'Asie domine maintenant entièrement et l'Europe est hélas assez sinistrée. Je pense là que les mathématiques ont un rôle énorme à jouer en termes d'innovation. Il y a une créativité qui est vraiment extraordinaire. On a fait une expérience dans le département de mathématiques à l'école polytechnique en créant un cours de création d'entreprise pour des jeunes polytechniciens qui vont dans des laboratoires, reviennent avec des idées pour proposer des créations d'entreprises présentées à des investisseurs. Et il y avait des idées extraordinaires sur, par exemple, des techniques de résolution d'équations des ondes, proposer des nouveaux systèmes de radiographie à bas coût pour des pays en développement, des idées d'équipement de sécurité dans des voitures à partir des techniques algorithmiques de traitement d'images. Il y a des choses extraordinaires. Je pense que ça peut être fait assez vite, mais ça dépend aussi de nous, nous autres académiques et industriels.
Et si on avait l'image, vous verriez que Stéphane Mala et Cédric Villani qui sont dans ce studio et qui portent tout ça, ben ils sont très jeunes. Et ça, c'est...
Et les yeux qui pétillent.
Oui, ils ont les yeux qui pétillent. Et c'est quand même franchement assez rassurant.
Sur France Inter.
Les mathématiques, la physique explorent les confins de la connaissance humaine. La solitude aussi des chercheurs, car la vulgarisation de leurs connaissances est difficile, souvent impossible, même si depuis hier, messieurs Bourguignon, Chemin, Villani, Stéphane Mala, il y a un instant, et bien sûr dans les minutes qui viennent, François Taddeï, nous font croire que nous pouvons tout comprendre. Parce qu'ils ont une telle générosité dans l'explication qu'on finit par croire qu'on pourrait en effet arriver à les suivre.
Même nous les femmes, même s'il n'y a que des messieurs.
J'ai peur, oui, vous avez raison. Mais non, mais il y a des grandes mathématiciennes aussi. Et d'ailleurs, je vous renvoie, j'insiste là-dessus, il est merveilleusement fait sur un essai qui est paru aux éditions Belin, qui a pour titre « Les déchiffreurs » avec un sous-titre « Voyage en mathématiques ». Mmh. Il est signé de Jean-François Dars, Danny Klein, Dan Papillot, qui sont d'ailleurs eux-mêmes des chercheurs. Et il est magnifique et on y trouve des profils féminins absolument extraordinaires, Sandra. De grandes, grandes chercheuses en mathématiques et en physique. Ça. Alors, ça étant dit, ce qui est important de savoir, c'est que, et il nous le prouve depuis hier, il y a une richesse d'échange entre ces chercheurs, qu'ils soient mathématiciens, physiciens et désormais aussi biologistes. La biologie a rejoint les mathématiques et la physique dans la maison magique de Bure-sur-Yvec, l'IHES, mais pas simplement là-bas. Bonjour François Taddeï.
Bonjour.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes un polytechnicien et qui est devenu généticien et vous êtes directeur de recherche en biologie des systèmes, je répète, biologie des systèmes à l'INSERM. Biologie des systèmes. Ainsi, nous autres vivants, ne serions-nous rien d'autre que des systèmes ?
Alors, on nous a longtemps réduit à de nombreuses molécules. L'idée d'un système, c'est que l'ensemble de ces molécules interagissent de manière dynamique. Et ce qui est intéressant du point de vue des mathématiques, c'est d'essayer de comprendre ces interactions et leur complexité.
Mais c'est ça qui est magnifique, c'est que d'un seul coup, notre corps est la démonstration que rien n'est mieux que finalement l'interaction et le partage d'une forme de connaissance.
Exactement, et c'est vrai à toutes les échelles dans le vivant. Même les bactéries échangent de l'information, elles coopèrent et elles échangent de l'information sur comment coopérer. C'est quand même assez admirable. Et donc, c'est vrai que c'est une jolie métaphore des temps modernes où on a beaucoup plus d'horizontalité, d'interaction et de coopération.
Mais rassurez-nous, cette façon de dire et de penser les choses ne va pas ramener l'humain à une équation mathématique.
Non, ce qui est intéressant, c'est que même dans les systèmes les plus simples, on s'aperçoit que le déterminisme génétique et environnemental ne peut tout expliquer. Donc si ça ne peut pas expliquer les choses sur les bactéries, comment ça pourrait expliquer les choses sur l'humain ?
C'est ça qui est troublant quand même. Mais juste une chose sur la façon dont tout ça fonctionne. Comment expliquer ? Je posais hier à M. Bourguignon la question de savoir si les mathématiques nous précèdent. On parlait de l'invention du langage. Et je lui demandais si, au fond, les mathématiques n'étaient pas quelque chose d'immanent qui a toujours guidé, au fond, la recherche fondamentale. Est-ce que les mathématiques sont une science universelle qui permet de mieux comprendre le fonctionnement de l'humain ?
Certainement. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on obtient des données de plus en plus importantes avec des instruments toujours plus sophistiqués. Et ces données, pour arriver à les transformer en informations, il faut les mathématiques. Pour transformer ces informations en connaissances, il faut encore d'autres mathématiques. Et donc c'est ça qu'on essaye de faire de plus en plus. Et si on veut passer de la connaissance à l'action, éventuellement à la thérapeutique dans le domaine médical ou dans le domaine écologique à des décisions politiques, il faut évidemment être capable, un, d'avoir toutes ces données, mais deux, d'avoir cette cascade d'interprétation mathématique pour pouvoir avancer.
Il y a quelque chose, là, Sandra, en effet, qui relève de l'universalité évoquée hier par Jean-Pierre Bourguignon. Hein.
Et au sujet de cette forme d'universalité, quand on parle des mathématiques, depuis ce matin, 7 heures, Cédric Villani parlait, on va vraiment résumer, d'esthétique, Stéphane Mala, lui, de simplicité. Et vous, je crois que vous parlez beaucoup de créativité. Qu'est-ce que vous envisagez en parlant de créativité quand on parle d'universalisme ?
La créativité, c'est on en a besoin de plus en plus pour faire face aux défis du monde. La créativité, c'est la capacité que chacun d'entre nous a à trouver des solutions. Donc ça peut être la créativité des plus grands mathématiciens, mais ça peut être la créativité d'un enfant. Et je crois qu'on a besoin de ce continuum de créativité. Si les enfants, on n'encourage pas leur créativité, alors les plus grandes ne pourront jamais également développer leur créativité. Et donc je pense que ça, on est en train de se rendre compte. On est en train de changer notre système scolaire assez lentement, faut-il dire, mais progressivement. Et ça, c'est absolument essentiel. On a besoin de cette créativité, on a besoin de ce questionnement.
D'accord. Et les mathématiciens aussi ont besoin de cette créativité où il faut qu'ils continuent à faire leur gamme un peu comme des musiciens, à connaître la technique pour pouvoir envisager autre chose. Est-ce que la créativité, c'est quelque chose qui se gagne avec la maturité ?
La créativité et la maturité doivent rentrer en résonance l'une avec l'autre. Mais si on a oublié sa créativité pour développer uniquement des gammes et avoir oublié toute créativité, plus tard, ce sera juste impossible de faire encore appel à cette créativité. Donc on a besoin de cette interaction entre ces gammes et cette créativité. Et c'est, le questionnement est au cœur de tout ça. Si on sait se questionner, s'émerveiller de la beauté du monde, alors on pourra arriver à être créatif. Et on a besoin de ça. Un des plus grands mathématiciens qui travaille en France à l'IHES est venu à sa demande, parler à des étudiants qui travaillent à l'interface entre la biologie et les mathématiques l'autre jour. Il a passé un quart d'heure à expliquer que les mathématiciens s'interrogeaient sur ce que veut dire le signe égal. D'accord ? Donc si on a besoin de s'interroger sur quelque chose d'aussi fondamental, il faut s'étonner de tout. Et on a besoin de développer ces interactions. Et ces interactions viennent justement des questionnements en observant le monde. Et la biologie, la médecine, l'écologie sont d'une richesse infinie. Et donc, elles sont des questionnements très intéressants pour les mathématiciens, pour essayer de mieux comprendre le monde.
Alors là, on entend, mais vraiment, je ne sais pas si vous imaginez à quel point on entend votre émerveillement collectif. Néanmoins, quand Stéphane Malat nous disait tout à l'heure, ce qui est magnifique, on va reparler de l'esthétique en mathématiques, ce qui est magnifique, c'est la simplicité. Mais rien n'est plus difficile que la simplicité, Cédric Vignini. Comment faire en sorte, comment pouvez-vous vulgariser pour que peut-être des jeunes qui sont en train de vous écouter se disent mais c'est splendide ce dont il parle, je vais faire des maths. Sauf qu'on va se mettre avec son petit cartable à table et on va comprendre que c'est difficile, que c'est complexe. Comment pouvez-vous communiquer sur des choses aussi complexes afin que l'envie de savoir et l'envie de la recherche continue? Comment vous faites, Cédric Vignini?
Comment faire pour communiquer pour l'envie de la recherche? C'est délicat, évidemment. Il y a tout un équilibre à trouver. D'ailleurs, on a parlé des gammes, on a parlé des exercices. Faire des mathématiques, c'est exaltant, mais c'est difficile. Il ne faut pas se le cacher, comme tout. Si vous êtes un grand concertiste, vous avez vos gammes à faire, beaucoup d'exercices. Vous devez continuer à vous émerveiller devant la beauté du morceau que vous allez exécuter, devant la richesse de l'inspiration, ainsi de suite. Mais la technique est toujours là. Il ne faut pas qu'elle étouffe la créativité. Il en faut un peu pour se développer. Et puis, il y a un effort qui est derrière. Alors, quand on va parler de mathématiques, donner l'envie à des gens d'en faire, c'est surtout pas, on ne va surtout pas présenter ça comme quelque chose de tout cuit, quelque chose qui va être facile. Faites des mathématiques et ça sera beau et simple. Pas du tout. Ça va être une lutte. Mais c'est ça aussi qui est beau. Comme les sportifs aiment l'effort, les mathématiciens aiment l'effort. Et tous les jours, on recherche.
Mais ils disent même qu'il faut que ça résiste, sinon ce n'est pas drôle.
Un peu frontal, quoi, le mathématicien.
Si c'est trop facile, c'est mauvais signe. Il faut que ça résiste, il faut que ça soit dur.
Une question, mais très très simple. Quelle est cette nécessité à faire des mathématiques aujourd'hui? On a tellement découvert de choses.
Nécessité de tout le monde. D'abord, les mathématiques, c'est universel. Hein, ça dure depuis des milliers d'années. Vous seriez très très surpris de savoir tout ce qu'on ne connaît pas encore en mathématiques. Le rapport entre ce qu'on connaît, ce dont on est content et ce qu'on aimerait démontrer est vraiment, c'est très proche de, je ne vais pas dire infinitésimal, mais c'est vraiment faible. Même des questions toutes simples. Pensez, vous faites chauffer de l'eau chez vous, vous préparez votre thé, vous faites cuire vos pâtes. La transition qui fait passer l'eau de l'état liquide à l'état gazeux, c'est un problème mathématique extrêmement difficile qu'on n'a toujours pas compris.
Quand Victor Hugo disait les mathématiques, c'est l'hiver funeste de l'esprit.
Ça. Il est arrivé qu'il puisse se tromper aussi, Victor Hugo.
À quel âge a-t-il dit ça? Peut-être qu'il était lui-même dans l'hiver de son propre esprit.
Mais, François Taddeï.
C'était un poète. Est-ce qu'il y a des mathématiques dans la poésie?
Ce que je dirais, c'est qu'un des défauts du système éducatif français, c'est qu'on utilise les mathématiques pour sélectionner. D'accord. Et comme on utilise les mathématiques pour sélectionner, beaucoup de gens ont souffert de faire des mathématiques. Alors que les mathématiques peuvent être vues comme un jeu de l'esprit formidable. Et si on comprend qu'on a besoin de mathématiques pour se questionner, pour comprendre le monde, alors les mathématiques deviennent fascinantes. Et le problème, c'est que c'est pas toujours comme ça qu'elles sont enseignées. Heureusement, il y a des enseignants formidables. Mais on a souvent du mal et souvent on présente les mathématiques de manière très aride.
Mais c'est ce que disait aussi Stéphane Mallat tout à l'heure, citant d'ailleurs ce qui se passe aux États-Unis, cette capacité qui existe aux États-Unis et que peut-être on devrait copier, à mieux recombiner les connaissances, à mieux les associer, à mieux confronter les points de vue, à mieux s'ouvrir à l'autre. Ça, c'est peut-être une chose qu'on ne sait pas suffisamment faire chez nous, même si on a peut-être l'une des meilleures écoles mathématiques au monde d'ailleurs.
Oui, je pense qu'un défaut qu'on peut avoir en France, c'est l'académisme. Lorsqu'on fait de la musique, vous avez pris l'exemple de la musique, avec deux accords, on peut faire de la musique, même si c'est très important de faire des gammes. De même, en mathématiques, avec des problèmes tout simples, on peut exercer l'esprit, on peut avoir de l'intuition, de la créativité, même si c'est important de faire de la technique. Et donc cet équilibre, c'est vrai qu'aux États-Unis, bien souvent, les gens sont un peu moins inhibés, avec très peu d'outils, pour se lancer dans des éléments créatifs. Je pense que ça, on en a besoin. Et comme c'était dit ici, c'est quelque chose qu'il faut davantage développer dans le système d'enseignement, notamment pour les maths. En faire quelque chose parfois d'un peu moins académique où l'intuition joue aussi un rôle très important.
François Dadéhi, je rappelle quand même que vous avez rédigé un rapport sur l'éducation et que vous l'avez remis à l'OCDE. Qu'est-ce qui fait dans l'histoire des mathématiques qu'au départ, l'enseignement des mathématiques faisait que finalement, quasiment tous les enfants étaient à peu près égaux face aux mathématiques, contrairement au langage qui dépendait de sa famille, de son milieu. Les mathématiques, a priori, c'était assez démocratique et finalement, c'est devenu un symbole d'élitisme d'une certaine façon.
En fait, le système éducatif français a été fondé à la Révolution, pour l'essentiel, et on a voulu passer d'une aristocratie à une méritocratie. D'accord ? Et à l'époque, on avait une élite qui dirigeait essentiellement une population d'analphabètes. Il se trouve qu'aujourd'hui, le nombre de places dans l'élite a très peu augmenté, alors que le niveau moyen de la population a énormément augmenté. Il y a aujourd'hui plus de gens qui ont un doctorat que de gens qui avaient leur bac après-guerre, après la Première Guerre mondiale. Donc il y a une transition formidable et le monde est beaucoup plus horizontal parce que beaucoup plus de gens sont capables de contribuer aujourd'hui. Et le problème, c'est que le nombre de places dans les plus grandes écoles n'a pas augmenté pratiquement. Et donc c'est là qu'il y a un défaut dans le système éducatif français et qu'on stigmatise les gens en fonction de leur capacité à faire des mathématiques. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut absolument arriver à revenir. Et en même temps, on voit que la place des mathématiques est toujours plus importante puisqu'on numérise le monde. Si on numérise le monde, ça veut dire qu'il y a des nombres partout. Et ces nombres, il faut savoir les manipuler, il faut savoir les comprendre. Mais on a aujourd'hui des ordinateurs pour les manipuler. Donc ce qu'il faut au moins autant, c'est apprendre à utiliser les ordinateurs pour manipuler ces nombres. Et je veux dire, moi je suis d'une génération où la calculette est arrivée à l'école, c'était une révolution. Aujourd'hui, il faudrait que les ordinateurs rentrent à l'école et quand même, puisqu'ils sont partout ailleurs.
Mais alors, vous êtes, il faut le rappeler quand même, vous êtes directeur de recherche en biologie des systèmes à l'INSERM. Pourquoi il n'y aurait pas une approche systémique de la question de l'éducation? On nous dit que la crise économique que nous traversons est une crise systémique. Une crise systémique, il faut une réponse systémique. Nous sommes dans un monde où l'interdisciplinarité est une donnée première. Pourquoi ne pas essayer de faire en sorte que, tenez, même via les mathématiques, on change même le projet de l'éducation dans ce pays et qu'on fasse en sorte qu'il soit mieux partagé et peut-être plus systémique? Une biologie de l'éducation?
Écoutez, c'est effectivement une question sur laquelle qu'on essaie d'aborder exactement sous l'angle que vous dites. Évidemment, on est encore relativement minoritaire, on commence à être un petit peu écouté. Et je pense qu'effectivement, c'est absolument nécessaire de changer le logiciel de l'éducation par bien des côtés, puisqu'il faut qu'on arrive à casser la barrière entre les disciplines. Et c'est beaucoup plus excitant d'essayer de comprendre, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a des maladies génétiques, quelle est la probabilité qu'un enfant ait une maladie ou pas. On a besoin de se poser ce genre de questions. Et si on se pose ce genre de questions qui sont à la frontière entre la biologie et les mathématiques, alors tout d'un coup, ces questions deviennent passionnantes. Et tout d'un coup, les probabilités deviennent quelque chose que tout un chacun aurait envie de comprendre.
Vous savez pourquoi vous nous faites rêver? Vient de paraître chez Lattès un essai extraordinaire, dont je recommande la lecture, qui a pour titre « L'âge de l'impensable ».« L'âge de l'impensable », édition Jean-Claude Lattès. Pour faire un argument très court, dans un monde interconnecté, des faits interagissent entre eux et créent des situations aléatoires qui, par le fait qu'elles sont aléatoires, sont évidemment impensables. Les physiciens, les biologistes, les mathématiciens que vous êtes, vous êtes toujours en quête de cet impensable-là. Est-ce qu'il ne faut pas changer, pas simplement l'enjeu de l'éducation, mais notre rapport au monde, puisque la règle du jeu n'est plus la même qu'avant? Cédric Villani.
C'est possible qu'il faille changer notre rapport au monde, tout en le faisant avec précaution. Hein. On a parlé beaucoup de questions d'éducation. Il faut aussi, bien sûr, tenir compte de la biologie, le développement, les questions, le cerveau des enfants, leurs intérêts s'éveillent de manière progressive. Nos intérêts à nous aussi, en fonction des âges, ce qu'on a, c'est pas la même chose. Il faut, c'est certainement qu'il faut repenser en même temps, intégrer dans la culture commune et puis par rapport au rythme dont on a pu avoir l'habitude, à des questions, faire le bon mélange, le bon dosage entre le classique et la révolution.
Stéphane Malla.
Oui, je pense que ce rapport au monde est fondamental. Les mathématiques, ce n'est pas une tour d'ivoire, ça s'enrichit à travers ce contact. On a parlé de la physique, de la biologie, du monde industriel. Non seulement ça s'enrichit, mais ça enrichit le monde à travers ces concepts. Et c'est ça, je pense, qu'il faut retenir, c'est que cette interaction, c'est ça aussi qui rend les mathématiques une science absolument passionnante.
Oui, monsieur Talley, je vous en prie.
Donc, en fait, ce dont on a besoin, c'est de former la prochaine génération à avoir un regard différent sur le monde. Et en fait, nous, ce qu'on a eu l'occasion de faire, c'est qu'on offre aux étudiants la possibilité de faire 3 stages dans 3 laboratoires de 3 disciplines différentes, en leur demandant de faire un stage expérimental et un stage théorique, de développer à la fois leur compréhension de la biologie, leur compréhension de la matière, leur compréhension du vivant et la compréhension de l'abstraction et de la mathématisation du monde. Et ça, on a absolument besoin de former des gens comme ça. De même que dans le domaine de l'éducation, c'est pas ma génération qui va inventer l'éducation de demain. Ce qu'on peut faire au mieux, c'est d'offrir à la génération du numérique la possibilité de réinventer l'éducation. Et ça, c'est absolument essentiel. Et on aura probablement l'occasion d'en discuter. Mais c'est, je pense, la clé de l'avenir.
On se donnera les occasions. Je vais vous dire une chose. Il avait raison, Cédric Villani. Je vais me remettre aux maths et à la physique. Alors, j'ai un gros boulot.
Avec votre petit-fils.
C'est ce qu'on appelle un chantier en ce qui me concerne. Mais je vous écoute et je vais m'y remettre.
Il en va de la survie de l'espèce.
Vous nous avez donné vraiment envie. Merci à vous tous. Les Déchiffreurs, Voyage en mathématiques, édition Belin, ne pas manquer.